Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? On est dans la série de l'épître de Pierre. Peut-être vous avez vu la semaine dernière. Oui, sûrement même. Vous avez eu Serge qui est venu vous parler du début de l'épître de Pierre. Et donc, je vais prendre la suite du texte aujourd'hui. La suite du premier chapitre. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression ou peut-être dit vous-même « prenez soin de vous » ou « prends soin de toi » ? Vous avez déjà entendu ça ? Et vous pouvez bien le faire parce que vous le valez bien, n'est-ce pas ? Prendre soin de nous, nous aimer, eh bien nous allons laisser l'apôtre Pierre le faire ce matin avec ce texte dans sa première lettre, chapitre 1, versets 13 à 21. L'apôtre Pierre est un juif devenu chrétien, un pêcheur de poissons devenu pêcheur d'hommes. Il a vécu avec Jésus. D'un caractère impulsif et fougueux, il est transformé par le Saint-Esprit à la Pentecôte. Il devient celui qu'on appelle l'apôtre des Juifs, prêt à mourir pour son Seigneur. Il écrit cette lettre aux chrétiens de Jérusalem qui sont dispersés dans les régions du Nord et de l'Asie mineure à cause de la persécution. Au début du chapitre, il leur rappelle le salut qu'ils ont reçu en Jésus, une espérance indéfectible et un héritage indestructible. Et ils peuvent vraiment s'en réjouir et tressaillir d'allégresse et de joie malgré les épreuves du moment. Il reprend deux fois l'expression « tressaillir d'allégresse » dans les versets 6 et 8. Dieu avait annoncé cette espérance par les prophètes et il a accompli sa parole en Jésus. C'est ce qui explique le « c'est pourquoi » du début du texte qu'on va lire, que nous allons lire, et dans lequel Pierre va détailler à nouveau le « comment » de cette espérance, en parlant de la rédemption qui nous est offerte en Jésus. Seigneur, je te bénis parce que, comme on l'a chanté, comme on l'a dit, tu nous as offert cette rédemption en Jésus-Christ. Et tu nous l'as offert sans que nous méritions quoi que ce soit, parce que toi tu nous as voulu, parce que toi tu nous as choisis avant la fondation du monde. Tu nous as voulu pour être avec toi pour l'éternité, pour célébrer ta gloire sur cette terre ici-bas et dans l'éternité. Et on est confondu vraiment devant tant de grâce, devant tant de bonté, devant tant de miséricorde, de bienveillance, d'amour. Merci, merci vraiment parce que cet amour t'a coûté tellement cher en Jésus. Merci Jésus d'être allé jusqu'à la mort sur la croix. Pour moi, pour chacun de nous. Aide-nous Seigneur à mieux comprendre et mieux réaliser le prix de ton sacrifice, le prix de cette grâce et à en faire le meilleur usage possible. Amen. Nous allons lire le texte. Alors, peut-être juste si tu peux revenir sur la diapo précédente. J'ai l'habitude de résumer les textes que nous lisons, que nous travaillons, juste avec une phrase ou avec quelques mots. Et donc la phrase que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est « racheter pour une espérance qui nous pousse à une sainte et joyeuse crainte de Dieu ». C'est un petit peu long, mais vous verrez tout à l'heure que je l'ai résumé avec un moyen mnémotechnique pour qu'on s'en souvienne. Pour certains, ça ne leur parle pas. Moi, j'ai besoin de ces moyens mnémotechniques pour m'en souvenir. Merci Clément. Nous allons lire le texte. Donc vous voyez, il y a deux couleurs. Une couleur qui concerne principalement ce que Dieu a fait et une couleur qui concerne notre responsabilité. Qu'est-ce que nous allons faire de ce que Dieu a fait ? C'est pourquoi. Donc le « c'est pourquoi » fait référence à l'héritage et à l'espérance que nous avons en Jésus. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Ou d'autres versions traduisent « saignez les reins de votre entendement ». Ce n'est pas très clair comme expression, mais on va l'expliquer tout à l'heure. « Soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 2. Quand vous étiez dans l'ignorance, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Ça vient de Lévitique 19 et Lévitique 20. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ça, c'est la partie qui nous concerne. Pourquoi est-ce que c'est Dieu nous appelle à faire cela ? Vous le savez, en effet, le « en effet » nous ramène à ce que Dieu a fait. Ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, qui est déjà pas mal, hein, que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Mais, qu'ils sont bons ces « mais par le sang précieux de Christ. Comme tout à l'heure, il y avait le « mais ». Vous étiez mort, vous étiez vendu au péché, mais Dieu qui est riche en compassion. On avait ça dans Éphésiens 2 tout à l'heure. Là, on a ce « mais » par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Waouh, c'est glorieux, hein ? Ce qui est en violet, c'est ce qui nous est donné, et ce qui est en bleu, c'est ce qu'on en fait, ce que nous en sommes appelés à en faire. En violet, la rédemption en Jésus qui nous donne une incroyable espérance, et en bleu, cette espérance indéfectible qui nous pousse à marcher dans une sainte et joyeuse crainte de Dieu. Et donc dans la diapo suivante, alors là c'est le résumé des deux parties, racheté pour une espérance qui nous pousse à une sainte et joyeuse crainte de Dieu. Et la suivante vous propose un petit résumé. Alors le RESCJSC, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais résident, nous sommes appelés à résider, à demeurer en Jésus-Christ. Nous sommes rachetés pour une espérance qui nous pousse à une sainte et joyeuse crainte en Jésus-Christ. Nous sommes résidents en Jésus-Christ. Si vous retenez le R, le S, le J, le C, vous avez le message de ce matin. Vous êtes rachetés pour vraiment pour cette espérance et à la vivre dans une sainte et joyeuse crainte, résidant en Jésus-Christ. Ce passage en violet nous réveille et nous fait lever. Il nous remplit et il nous booste. Ce sont les meilleures vitamines pour courir vers le but. Il nous offre à la fois un rappel de notre espérance et notre héritage en Christ et un appel à vivre pleinement, radicalement et saintement dans cet héritage et par cet héritage. Nous allons le relire parce qu'il est quand même assez dense et assez ardu. C'est pourquoi, donc à cause de notre espérance et de notre héritage, votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, mais que nous vivons quand même déjà sur cette terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, c'est tout ce que nous avons chanté ce matin, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, dépourvue de sens, qui nous avait été transmise par nos ancêtres. Mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut, sans tache, il était prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps, pour qui ? À cause de qui ? À cause de nous, à cause de moi. À cause de chacun de nous. Par lui, nous croyons en Dieu qu'il a ressuscité et qu'il lui a donné la gloire, de sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu. Nous sommes censés le savoir. L'apôtre Pierre nous dit, vous le savez en effet.
notre héritage, notre espérance vivante, cet héritage indestructible, grâce à notre rachat à un prix exorbitant, on pourrait dire même indécent, de la vie du Fils de Dieu, notre Rédempteur. Le Fils sans défaut, l'agneau sans défaut, est mort à ma place sur cette croix. Ma valeur équivaut à celle de Jésus. Le Fils bien-aimé du Père a pris ma condamnation, pourtant bien méritée. Je méritais la mort éternelle, et qu'est-ce qui m'est donné ? La vie éternelle. Parce qu'il est ressuscité, j'ai la vie sans que j'aie autre chose à faire que la recevoir. Je suis héritière de cette vie, j'ai reçu cette espérance, elle m'est donnée en tant qu'enfant de Dieu. J'ai simplement à l'accueillir, à la recevoir. C'est cadeau, grâce, don pour moi, mais un cadeau d'un prix absolument démesuré. La seule condition est de reconnaître, on va peut-être passer la prochaine diapo, la seule condition est de reconnaître que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Je ne peux pas porter moi-même ma condamnation parce qu'elle est impossible à payer humainement. Seul Dieu pouvait la porter et il l'a fait en son Fils Jésus et il me l'offre. On pourrait à toute petite échelle, hein, vraiment toute petite échelle, comparer cette grâce à une grâce présidentielle. Un prisonnier qui mérite la mort et à qui le président fait grâce. Sauf que le président ne peut lui faire grâce que pour la vie ici-bas. Et pour une vie ici-bas, j'allais dire, désolée de le dire comme ça, mais dans la médiocrité. La vie que nous vivons avec Dieu est une vie pleine, enthousiasmante, réjouissante. La vie que nous avons sans Dieu est une vie médiocre. Alors que ma foi et mon espérance reposent sur Dieu qui me fait vivre sa grâce avec lui pour une vie de plénitude et de félicité dès maintenant. Malgré, comme il est dit aux disciples qui sont dispersés, malgré les souffrances du temps présent, mais pour l'éternité et pour l'éternité. L'espérance chrétienne n'est pas une illusion ou un peut-être, mais c'est vraiment une assurance, une certitude. C'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu nous a ouvert les cieux et nous a élevés à lui. Vous savez que vous êtes assis dans cette salle et en même temps, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous l'êtes déjà. Ce n'est pas quelque chose qui va venir. Spirituellement, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Colossiens nous dit que nous avons été transportés de ce monde dans son royaume. C'est vraiment seulement par son amour, aucunement par nos mérites. Et nous avons l'assurance qu'il vit en nous par son Esprit Saint, qu'il agit en nous, au travers de nous, dans ce monde, pour apporter le salut à un grand nombre. Il patiente encore pour revenir, parce qu'il veut qu'un grand nombre soit sauvé. La conscience, plus nous prenons conscience de ce prix exorbitant, payé pour nous racheter, nous rédempter, nous pousse à une infinie reconnaissance. Et le meilleur moyen d'exprimer notre reconnaissance, c'est de vivre pleinement ce que nous avons reçu. Si je vous offre un cadeau, quel sera le meilleur moyen pour vous de me remercier ? Ça sera d'utiliser pleinement ce que je vous ai offert. Si j'offre un foulard à une amie, par exemple, le fait qu'elle le porte, ça me réjouit et ça m'honore. Elle en fait bon usage et elle montre qu'elle l'apprécie. À l'inverse, si on m'offre un vélo, j'ai un beau vélo électrique dans mon garage. La grande tristesse, c'est qu'il reste dans le garage et que je ne fais pas de vélo. Et ça désole mon mari. Je ne fais pas de vélo toute seule, je ne fais pas de vélo avec lui, et le vélo prend de la place dans le garage. C'est désolant. Vous voyez, l'utilisation que je fais de ce qui m'est donné va être ma façon de remercier la personne qui m'a offert le cadeau. Autre exemple, le meilleur moyen de remercier nos parents pour la vie que nous avons reçue d'eux, eh bien, c'est de l'habiter pleinement, notre vie. Ils en seront honorés. Notre reconnaissance à Dieu pour sa vie, en nous, grâce au sacrifice de Jésus, s'exprime aussi par une vie pleinement vécue en lui et dans l'amour pour lui. Et notre amour s'exprime par notre obéissance, notre marche dans la sainteté.
On peut mettre la diapo suivante, je pense qu'il y a déjà une partie, voilà. Notre héritage indestructible, notre espérance vivante.
Nous avons été rachetés à un prix exorbitant. Nous sommes passés de la mort à la vie et pour l'éternité. La condition, reconnaître que j'en ai besoin. Cette vie éternelle est une certitude, une assurance. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ? Comment est-ce que je peux exprimer ma reconnaissance à Dieu pour ça ? Bien, c'est en habitant pleinement cette vie, en lui obéissant et en marchant dans la sainteté. Jésus le rappelle à ses disciples avant sa mort. Je vous invite à relire Jean 14, du verset 15 à 24. On ne va pas le faire aujourd'hui, je vais le résumer, mais prenez le temps de le relire à la maison. Jean 14, verset 15 à 24. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Ou bien, il est dit juste un peu plus loin, « Celui qui ne garde pas mes commandements ne m'aime pas. » Et Jean va le répéter 4 fois d'affilée dans ce passage. De manière positive, celui qui aime mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, ou celui qui m'aime garde mes commandements. Et il va le dire aussi de manière négative, celui qui ne garde pas mes commandements ne m'aime pas. Et puis il va le répéter encore dans Jean 16, et on va le retrouver encore dans les épîtres de Jean. Nous pouvons vivre à la fois dans la reconnaissance et dans l'obéissance, dans l'amour, tout en tressaillant d'allégresse, comme il est dit au verset 6 et au verset 8, en vivant dans la joie. L'amour, l'obéissance, la joie, la sainteté, aucun n'empêche l'autre. Tout est simultané et complémentaire. Mon amour, c'est mon obéissance. Celui qui m'aime garde mes commandements. Mon obéissance, c'est juste la preuve de mon amour. Celui qui a mes commandements m'aime. L'obéissance et la crainte de Dieu n'empêchent pas de tressailler d'allégresse et de joie. Au contraire, parce que la crainte de Dieu est libératrice. La sainteté nous libère des convoitises de ce monde, nous libère du péché, nous libère de l'esclavage de la peur. Et cette crainte joyeuse se développe de plus en plus dans sa présence. Et cette crainte joyeuse va révéler Dieu à notre monde. Ce nouveau mode de vie interpelle autour de nous. Dieu nous a donné une espérance vivante qui nous pousse à vivre dans cette sainte et joyeuse crainte de Dieu. Ça va ? Vous me suivez ? On prend la suite du texte ? Allons-y. Relisons. C'est pourquoi, puisque vous avez tout reçu, hein, vous avez reçu cet héritage et cette espérance par la rédemption en Jésus. Tenez votre intelligence en éveil ou saignez les reins de votre entendement. Soyez sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il revient, notre Seigneur. Il revient. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Waouh, quand on lit ça, ça fait un peu... Ou alors ça fait peur. Mais en effet, il est écrit, vous serez saint, car moi je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Jésus a payé de sa vie pour nous, pour moi. On l'a chanté, on l'a dit de toutes les manières possibles. Ce coût astronomique, et nous le savons déjà en plus, hein, l'apôtre Pierre nous disait, vous le savez, ce coût astronomique nous pousse, me pousse à faire le meilleur usage de ce qui m'a été donné. J'ai maintenant la responsabilité de vivre au mieux cette vie nouvelle dans une espérance joyeuse et de la vivre dans la sainteté. J'ai déjà reçu cette sainteté en Jésus. Elle est mon ADN. En Jésus, je suis déjà rendue sainte. Et en même temps, je suis appelée à me conduire d'une manière sainte parce que lui est saint. Je ne peux pas me satisfaire de vivre dans la médiocrité, dans la petitesse. Je suis appelée à vivre dans l'excellence. Et je ne dis pas ça pour mettre un fardeau sur vos épaules. Je dis ça parce que c'est possible par le Saint-Esprit en nous. Je ne veux pas me contenter du minimum. Je ne peux pas être légère et jouer avec le péché. Et ça n'est pas une option. Mais c'est possible parce que mon espérance, cette espérance me booste et me pousse à vivre dans la sainteté. Cette espérance me porte, elle me transforme. C'est à la fois l'espérance de la vie éternelle avec Dieu, mais c'est aussi l'espérance de l'œuvre de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Et demain, je serai différente d'aujourd'hui. Et l'espérance de la vie de Dieu, de la vie de Dieu, de ce changement dans ma vie pour après-demain. Et après-demain, je serai différente de demain. C'est aussi cette espérance-là dans mon quotidien que Dieu continue d'agir en moi et de me transformer. L'Esprit Saint œuvre en moi pour faire de moi quelqu'un de plus en plus saint, de plus en plus conforme à l'image de Dieu. Et je trouve que c'est réjouissant et que c'est enthousiasmant. Exciting, diraient les anglophones. Non, pas vous. Vous ne trouvez pas que c'est enthousiasmant d'avoir la vie de Dieu en nous qui nous transforme un jour après l'autre? La sainteté n'est pas un fardeau. C'est à la fois notre ADN, notre identité, et c'est en même temps un chemin de conversion. Le déjà et le pas encore, comme disent les théologiens. Quand les apôtres écrivent aux chrétiens, ils s'adressent à des saints. Si on lit le début de la lettre aux Éphésiens, aux Colossiens, l'apôtre Paul va toujours dire qu'il écrit aux saints qui habitent à Éphèse, aux saints qui habitent à Colosse. Nous sommes déjà saints. Et en même temps, nous appartenons déjà à la famille du Père et en même temps, nous marchons jour après jour vers le pleinement accompli dans cette sainteté, dans cette libération du péché, cette libération des convoitises d'autrefois. On a chanté tout à l'heure « Je suis libérée ». Alors que nous étions ignorants quand nous marchions dans ces convoitises d'autrefois, nous étions ignorants. Nous le faisions parce que nous ne connaissions pas ce cadeau époustouflant offert en Jésus. Mais aujourd'hui, nous le connaissons et nous marchons dans cette communion libératrice. Non pas par légalisme, qu'est-ce qu'on a dit dans Jean 14, mais par amour, en réponse à l'amour de Dieu manifesté en Jésus pour nous. En réponse à l'Esprit Saint, à la vie de l'Esprit Saint qui habite en nous et qui nous transforme progressivement. C'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous booste. C'est pas du légalisme ou de la contrainte, mais c'est parce que Jésus m'a tellement aimé que j'ai envie de l'aimer aussi. Mais cela nécessite une vraie intentionnalité, une volonté ferme d'atteindre notre objectif. Je vais revenir sur cette expression « tenez votre intelligence en éveil » ou dans une autre version « saignez les reins de votre entendement ». La ceinture dans la Bible, elle manifestait la volonté de se mettre au travail. On trouve beaucoup cette expression dans l'Ancien Testament. On la trouve aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Romains, par exemple. Et puis là, dans l'Épître de Pierre. Cette ceinture manifeste la volonté de se mettre au travail en étant bien équipé pour être actif, pour être efficace et tenir ferme. Les soldats, par exemple, se saignaient les reins avant de partir au combat, pour renforcer leur stabilité, pour garder la chaleur, pour être solides et tenir ferme dans la durée jusqu'à ce qu'ils aient vaincu leurs ennemis. Je me revois toujours quand j'étais enfant, mon père était un agriculteur, et quand il partait couper du bois, ou quand il partait pour faire les foins, pour faire un travail physique, pénible, difficile, il mettait sa ceinture de flanelle autour de ses reins. Je ne sais pas si vous avez connu des anciens qui vivaient cela, mais je le revois toujours soulever sa chemise et enrouler sa ceinture de flanelle autour de ses reins, autour de son ventre. Il s'emballait avec application par-dessus son marcel. Il tendait bien sa ceinture pour qu'aucun pli ne le blesse. Il l'attachait. Et puis, il refermait sa chemise et il partait pour sa journée de travail. Et puis, le soir, il rentrait, il l'enlevait, il la roulait consciencieusement pour la remettre le lendemain matin. Cette ceinture tenait bien ses reins, de manière à ce que le bas de son dos soit stable, soit ferme, et qu'il puisse forcer durablement et sans douleur, ou avec un minimum de douleur. Aujourd'hui, on voit les ouvriers du BTP, par exemple, ou toujours les agriculteurs, les cultivateurs, ou ceux qui ont un travail pénible, ils mettent une ceinture. Alors souvent, c'est des ceintures élastiques, un petit peu comme les genouillères qu'on peut avoir ou les chevillères qu'il y a. Ça s'appelle des ceintures lombaires. Et ils mettent leur ceinture avant de partir au travail. Est-ce que nous, chaque matin, nous mettons notre ceinture pour être solide et stable dans toutes les circonstances, dans la persécution, pour tenir dans l'effort, pour marcher dans la sainteté. Éphésiens 6 dit « Ayez la vérité pour ceinture ». Éphésiens 4 dit « C'est la vérité qui produit la justice et la sainteté ». La vérité, c'est notre fondement en Jésus. La justice, c'est le fait de marcher dans cette vérité. Et cette vérité produit en nous la justice. Et nous marchons dans cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Rien de moins que ça. La vérité produit en nous la justice et la sainteté. Et cette vérité va s'opposer au désir trompeur d'autrefois dont il était question. Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, à ces désirs qui nous rendent captifs, qui nous rendent esclaves. Voulons-nous être libres ? Nous le sommes déjà en Jésus. On est à nouveau dans le déjà et le pas encore pour notre liberté. Mais comme pour la sainteté, la liberté est à la fois déjà un acquis et en même temps un chemin. Notre libération est aussi un chemin. La pensée de Dieu, quelqu'un a prié tout à l'heure par rapport à nos pensées, la pensée de Dieu s'oppose à celle de notre ancienne vie, de notre chair. Est-ce que nous discernons ? Est-ce que nous refusons ces anciens comportements, ces anciens fonctionnements, ces fausses croyances, ces désirs trompeurs ? Nous pouvons apprendre à les discerner et à les refuser, non pas en essayant d'écraser l'ancienne nature, mais en faisant grandir la nouvelle. Vous connaissez ce passage de Jean-Baptiste qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». La traduction littérale dit « Il faut qu'il croisse et que je sois diminué ». Le diminuer est un passif. C'est parce que Jésus grandit de plus en plus en moi que moi je rapetisse. C'est parce que la nouvelle nature grandit de plus en plus en moi que l'ancienne nature va disparaître. Plus je cultive, plus je nourris la nouvelle nature de la parole de Dieu, de sa présence, plus l'ancienne nature va disparaître. Je suis diminué en le laissant grandir. Plus j'apprends à penser comme Dieu, et moins je pense comme le monde. Plus j'adopte la perspective de Dieu sur ma vie, ça nécessite de la connaître pour l'adopter. Plus je connais et plus j'adopte la perspective de Dieu sur ma vie, sur mes circonstances, sur les autres, et moins je regarde avec les yeux du monde. Et moins je me conforme aux convoitises trompeuses du monde. Plus je me rapproche de Jésus, de sa parole, de sa pensée, plus je m'éloigne des choses du monde. Et c'est absolument libérateur. Plus je me rapproche de la vie, de sa vie, plus je vis de sa vie, et plus je transmets sa vie. Plus je le regarde, et plus je lui ressemble. Et c'est incroyablement libérateur et réjouissant d'être de moins en moins esclave de la manière de penser du monde. Ça va ? La sainteté, c'est à la fois notre identité, notre ADN, et cette transformation progressive à son image. Cette marche dans la sainteté, c'est le fruit de notre volonté de vivre dans une crainte joyeuse de Dieu. Nous l'aimons, nous le respectons et nous lui obéissons, par amour et par crainte. Mais cette crainte n'est pas de la peur, c'est un respect profond, une révérence profonde qui est vécue par amour et dans la joie d'une plus grande liberté, d'un amour manifesté chaque jour plus concrètement. Et cela est rendu possible, non pas par nos propres forces, mais par la puissance de l'Esprit Saint, de l'Esprit du Tout-Puissant qui agit en nous. Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je reste toujours bouleversée de me dire que l'Esprit qui habite en moi, qui habite en chacun de nous, c'est l'Esprit qui est allé ressusciter Christ d'entre les morts. En nous, en vous, en chacun de nous, est ce même Esprit-là. Quelle puissance est disponible en nous, quelle puissance est disponible, est à notre portée. C'est extraordinaire. C'est complètement... c'est fou. C'est ouf, comme diraient les jeunes. C'est complètement fou. Mais c'est la vérité. Il est là. C'est possible de vivre cette vie dans une crainte joyeuse et sainte parce que le Saint-Esprit nous transforme progressivement à l'image de Dieu. Parce que notre rédemption a coûté la vie à Jésus, a coûté la vie au Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre comme un homme, mourir à ma place, à notre place, et il nous a rachetés pour que nous vivions dans cette espérance, dès maintenant et pour l'éternité. Le prix est absolument démesuré. Nous sommes rachetés, nous sommes rédemptés pour une espérance qui nous porte vers la sainteté. Dans une joyeuse et sainte, ou dans une sainte et joyeuse crainte de Dieu. Nous sommes rachetés pour une espérance qui nous pousse à vivre dans une sainte et joyeuse crainte de Dieu. Alors je nous pose ces deux questions. Comment est-ce que nous allons prendre soin de nous aujourd'hui ? Je ne vous propose pas de prendre soin des autres. En prenant soin de nous, de toute façon, nous prendrons soin des autres. Est-ce que nous pouvons à nouveau nous arrêter au pied de la croix et regarder Jésus nous racheter ? Mieux comprendre notre valeur en lui, notre espérance. comment est-ce que nous pouvons lui manifester notre reconnaissance dans une obéissance joyeuse? Dans quel domaine de ma vie est-ce que j'ignore ou est-ce que je méprise sa volonté? Quelle intentionnalité et quelle mise en œuvre est-ce que je vais développer pour un vrai changement? Je nous laisse quelques minutes de réflexion avec ces deux questions et je nous invite vraiment pendant la semaine à prendre le temps de nous arrêter au pied de la croix pour voir, pour revoir le prix payé par Jésus pour moi sur cette croix. Et puis avec ce prix payé sur cette croix qui m'offre une espérance complètement folle, qu'est-ce que je mets en œuvre dans ma vie aujourd'hui pour manifester déjà et vivre dans cette espérance? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer encore? Et qu'est-ce que je mets en place pour cela? Père éternel, je te remercie vraiment. Déjà pour dire Père éternel, mais quelle grâce de pouvoir t'appeler Père éternel. Grâce à la rédemption, grâce au rachat en Jésus. Ce prix tellement exorbitant payé pour moi, payé pour chacun de nous. Merci vraiment pour cette vie nouvelle que tu nous as offerte, pour cette espérance pour aujourd'hui, pour demain, pour l'éternité, Seigneur, vivre avec toi, pour l'éternité, mais quelle gloire. Aide-nous, Seigneur, à mieux en mesurer la valeur. Aide-nous à répondre à cet amour dès maintenant, par notre obéissance, par notre volonté de te plaire, par notre volonté de manifester notre amour dans une sainte et joyeuse crainte de toi. Tu en es tellement digne. Aide-nous à vraiment pouvoir nous réjouir de te voir nous libérer de plus en plus, d'être de plus en plus remplis de toi, remplis de ta vie. Aide-nous à nous réjouir et à vouloir mieux te connaître, mieux t'aimer, à vouloir te refléter dans notre quotidien. Que les autres te voient au travers de nous. Que dans cette vallée, un grand nombre te reconnaissent comme Dieu, parce que tes enfants y vivent, parce que ton Église te reflète. Seigneur, que notre marche humble et confiante soit une réponse à ton amour, à l'amour du Père, révélé en Jésus-Christ et accompli en nous par l'Esprit Saint, avec grâce et avec puissance. Amen.